Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, on est jeudi, c'est Zoom Écologie. Ce soir, on vous emmène à la troisième étape de la campagne des soulèvements de la Terre, puisque nous étions donc l'équipe de Zoom Écologie en Haute-Loire le week-end du 29 et 30 mai pour participer à la mobilisation contre la RN 88 au pays de Laurent Wauquiez avec le collectif de la lutte des sucs. Et donc, on va vous emmener sans plus tarder, pour commencer, dans la manifestation qui a eu lieu le samedi matin dans la ville du Puy-en-Velay s'est tenue, donc était la première étape de ce week-end. Et ensuite, on a tout un reportage qui viendra retracer tout ce qui s'est passé pendant ce week-end où il y a eu un campement sur le tracé même de la route, donc au milieu de la campagne, entre les villages du Pertuis et de Saint-Austien, donc dans la Haute-Loire. On entendra un peu les différents acteurs de cette lutte, qui est donc portée par à la fois un collectif local d'habitants, des paysans du coin, et puis le soutien de différentes organisations, donc les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne. Voilà, on entendra un peu les voix des différentes personnes qui ont participé à ce rassemblement, voilà, qui a été un très chouette week-end. Et enfin, en dernière partie d'émission, on reviendra avec une des personnes du collectif de la lutte des sucs sur ce qui s'est passé depuis, puisque ça fait donc une dizaine de jours et il y a eu des nouveaux développements dans cette mobilisation depuis. On commence avec la manif au Puy, c'est parti.
Alors, les soulèvements de la terre, c'est une campagne qui rassemble un grand nombre d'organisations paysannes, écologistes et des lieux, des collectifs d'habitants en lutte. Le but, c'est d'organiser ensemble un ensemble d'actions à la fois, donc cette saison, c'est contre l'artificialisation des terres, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour soutenir les camarades en lutte contre la RN 88. C'est pour ça qu'on était le mois dernier à Rennes, au Prévalet, contre l'extension du stade rennais sur des terres agricoles, et que nous étions à Besançon le mois d'avant encore contre la destruction des vêtes par un écoquartier. Et toutes ces luttes, elles continuent et on espère pouvoir y retourner bientôt.
Alors la pancarte, nous on a marqué, je vais le lire, la RN 88 prétend desservir ce qu'elle va détruire, c'est-à-dire elle va détruire notre paysage, notre biodiversité, notre agriculture locale qui n'en a pas du tout besoin.
Et alors c'est tout le paradoxe de cette route qui doit désengorger une route mais qui du coup va devoir se faire ailleurs. Quoi.
Voilà, c'est tout à fait ça, bien résumé, c'est la mise en place d'un paradoxe, un de plus, qui détruit l'environnement, qui bétonne les sols, et on n'en a vraiment pas besoin aujourd'hui.
Merci. Bon, donc on est avec donc des gens qui ont les drapeaux de la Confédération Paysanne. Alors est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le sens de la Confédération Paysanne de venir à ces manifestations ?
Eh ben, pour nous, à la Confédération Paysanne, on a statué il y a longtemps maintenant. On est pour le zéro artificialisation tout de suite et maintenant. Il n'est plus possible d'artificialiser les terres pour des questions d'abord de souveraineté alimentaire. Au niveau mondial, il faut savoir qu'il y a 20% des terres immergées qui sont capables de produire de l'alimentation. Donc aujourd'hui, gâcher toute terre qui reste sous le béton, eh ben, c'est un crime contre l'humanité.
Et au niveau de la question des agriculteurs et des paysans, puisque c'est ce que représente la Confédération Paysanne, la mobilisation, est-ce qu'elle se fait concrètement aussi ?
Alors localement, il y a des paysans qui sont contre. La Confédération Paysanne Régionale est investie sur la question. Après, on est plus ou moins investi dans la question.
C'est un dossier très compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Non, mais c'est pour ça que, au pire, je coupe, c'est pas...
Donc, je sais pas, t'enregistres là ?
Je peux couper. Bon, donc sur vos pancartes, il y a écrit... Alors...
J'aime pas vos pieds.
Ouais. Et...
Moi non plus.
Alors, dans la manifestation, il y a plein de pancartes contre Wauquiez et ses panneaux. Est-ce que vous expliquez pourquoi il y a autant de pancartes contre Wauquiez ?
Bah déjà, il y a...
Pour les questions de mobilité. Parce que quoi ? On va gagner une minute sur le trajet, là. Hein ? Avec, je crois, c'est 200 millions, non ? 220 millions ?
À peu près.
Et c'est un projet pharaonique, c'est un projet d'ego pour que Wauquiez, qui est plutôt... Pas très à l'aise sur les questions politiques en ce moment avec son parti, avec voilà tout ça. Bon, il cherche à se faire son fief.
Mais c'est déjà son fief ici depuis quelques temps, non ?
Alors là, Haute-Loire, oui, ça a toujours été son fief. Mais là, il est président de la région Rhône-Alpes et les élections, c'est dans un mois, donc voilà.
Et du coup, pour lui, ce genre de projet, politiquement, c'est essentiel, quoi.
Ce qu'on dénonce, c'est la mégalomanie du projet. Effectivement, il s'agissait au départ de désengorger deux communes qui sont traversées par la RN 88, de trouver des solutions pour les riverains. Mais là, bon, au lieu de faire des contournements classiques, on fait une autoroute qui traverse la montagne. Donc voilà, bon, bah, y avait mieux à faire. Donc là, c'est ce côté mégalo qu'on lui reproche. Ceci dit, on sait que Wauquiez, son histoire, c'est ça. C'est un bétonneur. C'est comme ça qu'il s'est créé une clientèle. Et il poursuit dans cette voie. C'est la voie du siècle passé. Voilà. Et c'est ce qu'on dénonce.
Donc, parmi les banderoles, il y a aussi des banderoles qui sont un peu moins locales. Tu peux me dire ce qu'il y a sur ta banderole ?
Sur notre banderole, il y a... De l'estuaire à la source, les soulèvements de la Loire, 44, des terres et des mers.
Alors pourquoi venir ici en soutien à cette lutte qui est pourtant à quelques heures de voiture ?
Eh bah, bien, la manif contre la RN 88, elle fait partie aussi des soulèvements de la terre. Et on est plein dans toute la France à avoir monté ce truc ensemble et se dire qu'on pouvait s'entraider et protéger les terres paysannes un peu partout. Du coup, nous, on est venus, et comme on est du 44, où il y a une histoire liée à plein de luttes dans lesquelles on a été prises, et ben, on trouvait ça cool de rappeler que la Loire, elle coulait d'ici, de la Haute-Loire jusqu'à Nantes. Et aussi, c'est un peu en soutien et en clin d'œil à la lutte à côté d'Orléans contre un pont, où ils font un rassemblement ce week-end à Mardier. Et de rappeler aussi que c'est cool de savoir qu'on fait partie du même bassin versant.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que la Loire, elle traverse l'intégralité de la France, et que, bah, on sait que les rivières, enfin, que une rivière, effectivement, de l'amont à l'aval, c'est un seul problème. Enfin, les problèmes se rejoignent, quoi.
Bah oui, on a l'eau qu'on peut boire à Nantes, elle vient d'ici, donc pour nous aussi, c'est important, et c'est une forme, c'est une géographie dans laquelle on peut avoir une attention, même si c'est loin, en fait. On a mis 10-12 heures de bagnole, mais on est content.
Bon, donc là, vous êtes avec donc on a trois personnes avec une banderole qui est surmontée de trois épouvantails. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, ces épouvantails ?
Les épouvantails, au début, ils ont été créés pour une lutte autour des jardins de la Buisserate à Grenoble, qui étaient des jardins ouvriers extrêmement fertiles, menacés par un projet immobilier de construction de 4 immeubles. Des jardins qui ont finalement été terrassés par une sorte d'alliance, on va dire, entre la mairie, la métropole de Grenoble et puis un promoteur immobilier qui voilà, soutenait ce projet de construction. Il y a eu une grosse lutte. Tous ces élus, tous ces promoteurs et tout ça ont profité en fait du deuxième confinement pour terrasser et vraiment nous empêcher de protester. Il y a eu beaucoup d'arrestations, une grande répression, en invoquant en particulier les mesures sanitaires. Et puis un peu plus généralement, donc, nous on est un groupe de Grenoble. À Grenoble, il y a vraiment un jeu politique entre la mairie, la métropole, le PFL qui gère le foncier de la métropole, et puis la préfecture aussi. Et, et qui en fait mènent une politique d'urbanisation agressive et détruisent les dernières terres agricoles de la métropole, de la cuvette grenobloise. C'est pour ça qu'il y a marqué ça sur cette banderole en fait.
C'est écrit quoi?
C'est écrit un arbre, un élu.
Pour la lutte des sucres, c'est important ce week-end pour nous. Ça fait à peu près plus de 15 mois que le collectif s'est monté. De gens du coin, c'est-à-dire autour du Pertuis de Saint-Eustien. Beaucoup de gens de la Haute-Loire, des environs, qui ne veulent pas de cette route, qui ne veulent pas de ce bitume, pour toutes les raisons pour lesquelles on est là. Donc je vais faire court. La lutte au niveau des recours, il faut savoir qu'il y a différents recours qui ont été déposés. On n'a pas perdu encore. Des recours déposés par France Nature Environnement, des recours déposés par la conseillère régionale Myriam Ledouni au niveau de la région. Ces recours sont en cours. On a perdu une petite étape qui est le référé suspension au tribunal administratif. On demande en effet que les travaux soient suspendus en attendant la décision des recours qui, de toute façon, va prendre entre 1 et 2 ans. Pour l'histoire, il faut juste savoir qu'en Dordogne, à Bénac, le département a voulu faire un pont et les associations environnementales avaient déposé des recours et ils n'ont pas eu le référé suspension. Le viaduc a commencé. Entre-temps, le recours, les associations environnementales ont gagné. Du coup, maintenant, ils démontent les piliers. Donc, l'objectif, nous, c'est pour éviter tout cet argent avec lequel on pourrait faire bien d'autres choses. On voudrait se référer suspension en attendant les recours. Parce que les recours qui vont se prononcer d'ici 1 an et 2 ans, nous, on y croit. On est de plus en plus de gens à être conscient qu'il faut lutter pour préserver notre planète. Donc ces recours, on risque de les gagner. Malheureusement, si les travaux ont commencé, c'est ça le problème. Actuellement, il y a du défrichement qui a été fait, c'est très impressionnant, mais mine de rien, la nature s'en remettra si ça s'arrête là. Par contre, il ne faut pas que ça continue. En septembre, octobre, normalement, là, attention, les bulldozers arrivent. Donc nous, ce week-end ici, c'est histoire d'enraciner la lutte. Et je vous invite vraiment à venir, bien sûr, aujourd'hui, puisqu'il faut l'enraciner avec un peu de visibilité, un potager. Vous allez voir, on a prévu plein de choses, quelques constructions. Et il faut vraiment vous montrer la visibilité. Mais dimanche, il faut réfléchir à la suite de la lutte. Et là, il y aura différents forums, d'accord? Parce qu'évidemment, ça ne va pas s'arrêter lundi soir. Et on aura besoin de nouvelles forces. On est quand même assez contents, là, on est nombreux, mais il va falloir encore être un peu plus nombreux. Voilà. Ensuite, il faudra aller, je pense, ensemble, d'accord, rejoindre nos voitures. Et il faut se retrouver sur le site. Vous avez dû voir en venant qu'il y avait beaucoup de déploiements des forces de l'ordre. OK. Voilà, vous avez eu un petit plan. Le but, c'est de rejoindre le site à pied. Il faut se souvenir que la manifestation des 3 jours est déclarée et autorisée, d'accord? On ne peut pas vous y interdire d'y aller à pied. Donc, il y a des sites de prévus au niveau du parking, mais en aucun cas, on peut vous interdire d'y aller, d'accord? Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit ensemble, je pense aussi. Il ne faut pas y aller un par un, je pense qu'il faut y aller un petit peu groupé. Ah.
We'll be right back.
êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. On vient d'écouter Altengun et on retourne sans plus tarder au week-end de lutte contre la RN88 en Haute-Loire avec la lutte des sucs et les soulèvements de la terre.
Donc là, je suis avec Nathalie de la Maison du Pertuis, donc qui est quelqu'un qui, donc une habitante, hein, qui est sur l'emprise de ce contournement routier. Donc là, pour essayer de se rendre compte, donc le contournement, donc il fait combien de kilomètres ?
Alors il fait 10 km, le contournement 10 km 6, je ne sais plus bien exactement, je ne suis pas à 200 mètres près.
Parce que alors ce qu'il faut voir donc là, c'est que ce qu'on appelle un contournement, c'est que d'une certaine façon on pourrait dire que en fait effectivement la route actuelle, on le voit bien sur la carte, elle coupe déjà deux villages, ce qui pour les riverains est un gros problème, mais qu'en fait que ce contournement il contourne pas que les villages, il fait tout le tour en fait de l'espace du paysager qui est là, et en plus il n'est pas simplement une nouvelle route nationale, enfin une deux voies, c'est qu'en fait c'est une formation quasiment autoroute avec des grands virages,
bien sûr, voilà,
un dénivelé qui doit être le minimal.
C'est une route qu'on construit il y a 30 ans, ça. On faisait une route dans des terrains vierges, et il y a 30 ans, on faisait une autoroute, on passait. Là, jusqu'à présent, maintenant, ça fait quelques années, on ne fait plus ça. Maintenant, on double des voies, on fait plus ça. Là, nous, oui, en effet, c'est 160 hectares de terrains vierges. Voilà, c'est ça qui est vraiment difficile à avaler. Alors que nous, on propose autre chose quand même. Hein. On n'est pas contre le contournement. Moi, j'habite au Pertuis. Donc, nous, on propose autre chose. Genre, une tranchée couverte pour le Pertuis et une plus petite déviation de fois une voie, déjà c'est pas pareil.
Parce que ce qu'on voit sur le plan, c'est que ça contourne comme ça, ça longe une vallée qui passe entre différents, ce qu'on appelle des sucs, c'est ça, c'est des espèces de petites collines qui dépassent du plateau.
Alors tout à fait, en fait la logique fait que quand on double une route, on fait une deux voies à côté d'une deux voies déjà existante. C'est ce qui se passe entre Issingeau et Le Pertuis. Actuellement les travaux ont commencé, ça c'est acté. Nous on ne contredit pas ça, d'abord parce que c'est à bord de route, c'est du remblai, et puis c'est un doublement, voilà. Là ce qu'on conteste en effet, c'est que ça traverse ce qu'on appelle le pays des sucs. Alors les sucs c'est pas des collines, en fait c'est des volcans. Ouais. C'est des volcans et c'est même unique au monde parce qu'il y a plus d'une centaine c'est des cheminées hein, de volcans, et ça va détruire, passer au milieu des sucs, et voire même en tout cas ça va en détruire certains, le Chirou entre autres, c'est un suc magnifique, un des plus vieux volcans d'Auvergne, voilà, qui va être traversé par le viaduc et par cette quatre voies.
Parce que alors si on commence depuis le départ, donc nous là, tel qu'on est au campement de la lutte, là tout de suite on est dans un paysage de prairies comme ça, qui est assez vallonné, qui est très chouette, donc c'est des prairies, c'est un paysage de bocage là en fait.
Voilà, de bocage, elles sont préservées, les zones humides, c'est très humide, là on le voit aussi sous nos pieds, hein, c'est une zone humide, et puis ensuite bah, ça va continuer, et là après on va attaquer les montagnes, et alors, ça va attaquer le col du Pertuis justement.
Alors ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette route, presque on la devine parce qu'elle est déjà marquée dans le paysage avec un balisage.
En fait, là où vous êtes, c'est des prairies, donc on voit qu'un marquage, mais au Pertuis, c'est plus que ça parce que c'était des forêts. Donc là, les arbres sont par terre. Donc là, on voit une tranchée actuelle qui est dans la montagne. Là, ça se voit encore mieux, quoi. Voilà.
C'est-à-dire que là, pour l'instant, donc, cette route n'est pas encore construite, mais en fait, le tracé est déjà marqué dans le paysage, et le paysage en fait, est déjà marqué par cette future route.
Bien sûr, ils ont tout fait l'emprise, comme on dit, et puis ils ont défriché. Mais il faut savoir qu'ils ont des petits soucis, parce qu'en fait, il leur manque quand même des terrains, ils n'ont encore pas tous les terrains, parce qu'il y a des soucis, comme au-dessus du Pertuis, au col du Pertuis, il va y avoir pour cette 4 voies, pour pas qu'elle ait une pente trop forte, comme c'est une 4 voies, il va y avoir à un moment, je sais pas, à peu près sur 500 mètres, ça va être enterré de 30 mètres.
Alors là, c'est sûr. Donc là, on se traîne.
Là,
donc...
ça, c'est vraiment là.
C'est vrai, parce que le paysage est très changeant, en fait. On passe d'abord d'une prairie,
voilà,
puis
la prairie,
ensuite...
Après là, on attaque, en fait, ici, les sucs, le pays des sucs. Et vous voyez... il va être à peu près ici. Là, il y a un viaduc.
Ouais, donc là, on voit qu'on passe entre deux sucs,
voilà,
avec un viaduc.
Voilà. Donc là, c'est déjà défriché. Ouais. Les gens qui habitent ici ne peuvent pas le louper. Hein, ça se voit énormément. Voilà. Et puis, là, au-dessus, vous voyez,
il faut passer un col ici.
Il y a le col. Et pour que le dénivelé ne soit pas trop important, eh bien, il va y avoir... Ça va... Alors, au départ, ils avaient prévu 15 mètres. Puis en fait, les fouilles archéologiques... On prévoit, il y a beaucoup d'argile et tout, ça va être de 30 mètres. Et là, il y a un gros problème parce que du coup, l'emprise au sol est beaucoup plus grande. Et pareil, ils n'ont encore pas tous les terrains aux alentours, quoi. Voilà.
Ok. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne sais pas si cette carte, elle est disponible sur votre site ou quoi, mais en tout cas, elle parle vraiment. Enfin, c'est des choses qui sont assez visuelles comme ça. On se rend bien compte de ce qu'est un projet de l'ancien temps, vraiment, voilà. On pourrait dire ça comme ça, avec un projet autoroutier au milieu d'une montagne vallonnée extrêmement chouette.
Elle est disponible sur le Facebook de la lutte. Voilà.
Bon. Bah, merci bien pour cette visite. Donc je suis avec Mélanie, donc qui est agricultrice ou en tout cas qui tient une ferme.
Avec mon conjoint. Voilà, en fait mon conjoint est agriculteur. Cette route l'impact de 10 hectares connus à l'heure actuelle et d'autres certainement non connus puisque monsieur le président de région nous achète des terrains à l'envers. Moi ce qui me touche sur cette route, pas en tant qu'agricultrice, parce que ça c'est dramatique, j'en pleurerai tous les soirs, mon homme en pleure tous les soirs. C'est qu'on nous avait dit, on vous dénominera, on a une source d'eau. Cette source d'eau, elle est complètement, elle va être ravagée par cette route. Une source d'eau, vous savez pas, c'est de l'eau fraîche tous les jours. C'est magnifique, enfin, c'est une source d'eau qui pourrait nourrir une région comme le Puy-en-Velay, 20 000 habitants. Tranquillou, hein, c'est une bonne source d'eau, ils vont la ravager.
Et alors, donc ça implique quoi en termes de, voilà, quand on vous dit, donc il y a la route qui va passer là, en tout cas, c'est ce qui est sur le projet, c'est quoi, ça prend d'abord la forme d'une négociation, c'est une expulsion, il y a des pressions, c'est comment ça se passe?
En fait, c'est pas des négociations, c'est en fait, on nous a dit, c'est une route qui est d'utilité publique, on vous expulse.
En fait, l'utilité publique, vous n'en faites pas partie en plus. Enfin, c'est ça, précisément, ça passe au-dessus des habitants.
Et... ça passe au-dessus de tout. Si un jour, on vous arrive chez vous, à Paris, vous avez un exemple, au moment, c'est un train. En fait, on arrive chez vous, et ce train, en fait, on va pas vous demander si vous avez le droit de le dire non ou oui. On va vous virer de chez vous, on va détruire votre maison, on va détruire vos prés, on va détruire tout chez vous, et on vous dira dégagez. Dégagez, parce que c'est d'utilité publique d'avoir un train pour vous circuler dans Paris. Et nous, ici, c'est d'utilité publique d'avoir une route pour circuler en campagne. C'est pas vrai en fait, cette route elle existe déjà, il y en a déjà une que je prends tous les matins moi. Oui, elle roule, il y a des jours plus ou moins bien, c'est sûr quand en juillet-août il y a les vacanciers, ça roule moins vite, mais c'est pas vrai, elle roule très bien les autres jours de l'année.
Et donc là dans ces cas-là, c'est quoi? Ils achètent des terres au prix, c'est quoi les prix? Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas le choix.
C'est pas négociable les prix. En fait les prix c'est même pas le terrain, enfin c'est même pas une histoire de prix, c'est une histoire de cœur. Et puis de toute façon les gens quand on leur dit nous ont donné 22 centimes du mètre carré, est-ce que vous achèteriez quelque chose à Paris avec 22 centimes du mètre carré? Et c'était à l'époque, c'était en francs, maintenant c'est ce prix là en euros et en France c'était encore moins, donc c'est dramatique en fait. Vous faites rien avec cette somme d'argent, vous nourrissez même pas vos bêtes une année avec ce qu'ils vous donnent.
Et en fait, ça ne couvre pas du tout ce que peut rapporter pour l'agriculteur en termes d'usage ces terres qui, en fait, sont là pour toujours, normalement.
En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, puisque vous êtes des Parisiens et que je n'ai rien contre les Parisiens, mais si vous vous imaginez les États-Unis avec des bêtes dans la boue et de la viande venir de là-bas, eh ben ouais, votez cette route, quoi. Et si vous voulez des bêtes élevées, comme certains les aiment, en pleine nature, avec l'espace qu'elles ont besoin pour vivre, avec de l'eau à volonté, tous les minéraux qu'il faut dans les herbes et dans les arbres et dans la faune qu'il y a ici, eh ben faut arrêter cette route. Voilà ce que j'ai envie de dire, moi.
Donc là, je suis avec Sébastien, qui est ornithologue et qui a fait la visite, parmi les quelques visites naturalistes du site qui ont été organisées pendant l'occupation. Là. Alors, est-ce que tu saurais un peu nous dire les enjeux environnementaux là sur le tracé? On voit qu'on a, là, on est sur des prairies, c'est assez joli comme paysage avec un bocage. Tu saurais nous dire un peu c'est quoi les enjeux environnementaux?
Eh ben, donc on est sur une zone de bocage relativement dense avec donc pas mal de donc notamment de haies assez anciennes du coup avec pas mal d'arbres du coup de feuillus d'arbres assez anciens donc qui présentent toute une diversité d'habitats favorables à la faune aussi bien aux oiseaux qu'à d'autres groupes quoi. Et donc le projet routier là va impacter en fait donc pas mal cette zone de bocage, donc aussi bien les zones qui sont en prairie, notamment des prairies permanentes qui sont assez intéressantes parce que très diversifié au niveau de leur flore, notamment toute une partie qui est en prairie humide, donc des habitats qui ont largement régressé notamment au siècle dernier, donc après du coup il y a toute une diversité d'espèces qui utilisent ces habitats naturels et qui pourront plus en profiter s'ils sont supprimés. Si on donne quelques chiffres comme ça,
quelques bêtes.
Quelques bêtes et quelques chiffres. Au niveau des bêtes, on a à proximité, notamment l'hiver. Du coup, on a un dortoir de 10 000 ans royaux, du coup, qui sont à proximité du tracé de la route. Donc là, qui peuvent être notamment impactés, du coup, par la réduction des surfaces en prairie, des zones de chasse pour eux. Après, on a du coup toute une université d'oiseaux, notamment pas mal de les fragilidés, bruant jaune, pinson, linotte, donc des oiseaux comme ça qui sont dans ces zones de bocage, qui vont nicher dans les haies et qui vont aussi se nourrir du coup dans les parcelles adjacentes. Et donc ça, ce sont pas mal d'espèces d'oiseaux qui sont justement en déclin. Donc ça fait partie de cette biodiversité qu'on dit ordinaire, mais qui est en déclin, et comme le montrent en fait toutes les études récentes, en fait c'est cette biodiversité aussi commune qui a peut-être été un peu délaissée et qui en fait maintenant est en large régression, et du coup elle peut être impactée directement par ces travaux, quoi.
Alors, en fait, du coup, ce qu'on dit, c'est que c'est pas des espaces qui sont extrêmement rares, et forcément, même si les zones humides sont normalement protégées individuellement, enfin réglementairement, mais qu'en fait c'est pas tant un paysage qui est extraordinaire, qu'en fait c'est juste, c'est une mosaïque d'habitat qui est préservée et qui mérite dans son ensemble, en fait, c'est ça le...
Oui, c'est ça, c'est un paysage qui mérite d'être préservé, et même s'il est il est encore assez commun, et ben en fait au siècle dernier, on a en gros deux tiers des zones humides qui ont disparu, on a 70% du bocage, 70% des haies qui ont disparu aussi. Donc si on continue à en fait réduire la proportion de ces habitats, et ben c'est toute la nature qui en pâtit, quoi. Adio tu che ti c'alavo, che ti sia vista durar, adio lì so che scampavo, allora roda via, ti mo cambia.
Donc on est à l'atelier potager du week-end de la lutte des sucs, et là on est dimanche midi. Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur à quoi ressemblait cet endroit hier midi quand on est arrivé et à quoi ça ressemble maintenant ?
Hier quand on est arrivé, il n'y avait rien. Donc c'était tout plat, c'était un champ en fait rempli d'herbes et de fleurs. Et là, il y a quatre grosses buttes avec des tomates, avec des tuteurs, avec beaucoup de paille, avec des tranchées sur le côté des buttes pour le cycle de l'eau, encore une fois. Et c'est assez incroyable qu'on ait réussi à faire ça en une matinée, parce que ça, ça montre vraiment la force d'esprit d'équipe et du groupe, parce que à une personne, ça met 15 jours de faire le même travail, quoi. Et là, en 4 heures, on a transformé complètement le terrain. Et il y a deux buts qui arrivent encore, à mon avis, demain. Ça, c'est un essai d'hier qui a été un peu raté, parce qu'on est sur une zone humide. Et du coup, c'est aussi une raison pourquoi on a décidé de faire des buts, finalement. C'est pour que l'eau s'infiltre et reste, aille bien nourrir toutes les racines, mais que ce ne soit pas non plus un marécage. Et que voilà, parce que du coup, là, c'est à même le sol et... Il y a moyen que ça ne fonctionne pas. Oui. Donc c'est un peu un essai raté à côté.
Okay. Donc on est sur la petite table du troc de graines. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le troc de graines et comment vous avez eu l'idée de faire ça là ce week-end pour la lutte des sucs ?
Eh ben, il y a un peu une logique. Hein. Quand on parle de combat pour se réapproprier ou protéger des terres agricoles, la semence fait partie de la thématique, on peut dire. Et c'est aussi un combat, d'ailleurs, à l'heure actuelle, de protéger le peu de semences reproductibles qui restent encore sous nos latitudes. Donc voilà, le troc de semences, c'est l'occasion de pouvoir présenter ces semences-là qu'on cultive sur nos fermes, et puis d'en parler avec les gens, et puis d'en distribuer pour qu'elles puissent continuer à être cultivées, parce que le grand risque, c'est qu'à l'heure actuelle, avec les F1, quoi, ce qui sont des semences non reproductibles, ce que toutes ces semences disparaissent. Il y en a beaucoup qui ont déjà disparu des catalogues et ça continue.
Et ça, on parle de quel genre de plantes, de n'importe quoi, ou c'est plutôt les céréales, plutôt les...
Tu as beaucoup de légumes maintenant, hein, comme ça. Moi, je vois dans les catalogues, ça devient compliqué de trouver même... il reste 4-5 variétés de choux-fleurs qui ne sont pas hybrides, ne parlons pas des brocolis. Quand tu regardes le catalogue des variétés... d'il y a 50 ans et maintenant, on a perdu énormément. Et ne parlons pas de l'époque où il n'y avait pas de catalogue, parce qu'il faut savoir que le catalogue, ça n'existe pas. Ça a été fait sous Vichy, ça n'existe pas depuis très longtemps. Avant, tu avais par vallée, tu avais un...
Il est interdit de commercialiser, d'acheter ou de vendre des semences qui ne sont pas dans le catalogue, en fait.
Donc là, on est en train de faire un truc un peu interdit.
C'est pas interdit parce que c'est du troc. Donc c'est pas de la commercialisation, c'est de l'échange un peu informel. Mais voilà, c'est une identité derrière ça parce que c'est des graines qui ont été cultivées par des générations de paysans en fait jusqu'à maintenant et qui sont particulièrement adaptées à leur territoire. Donc elles peuvent être reproductibles et du coup on s'affranchit de la dépendance au laboratoire et au système agricole tel qu'il est. En ayant nos propres semences, on n'a pas à les acheter. Et elles ne sont pas dépendantes forcément des produits qu'on peut éventuellement mettre dessus.
Là, dans les pots, on a plein de graines dans des pots en verre. Est-ce que vous pouvez juste nous donner quelques exemples de ce que vous avez comme graines et ce que vous avez envie de semer par ici?
Moi, j'ai par exemple du tournesol de Mongolie, mais c'est ça qui est marrant parce qu'on parle de produits qui sont adaptés à des terroirs, mais en cultivant et en faisant mes semences, je me suis aperçu que j'ai du haricot rouge qui vient d'à côté de Madrid en Espagne, qu'elles ont aussi des capacités d'adaptation qui sont absolument phénoménales. Mais c'est aussi parce que on cherche pas à obtenir, enfin moi en tous les cas quand je fais ma semence, je sélectionne pas sur un critère unique, tu vois. Donc tu vois, j'ai un haricot donc, qui vient de l'Espagne, je sais pas, j'en ai d'autres moi dans mes collections qui viennent de l'Irlande, qui viennent d'Amérique latine. Là j'ai un haricot noir qui vient de l'Amérique latine, j'ai du pois chiche qui vient du Pérou. En fait il y a une grosse diversité et qui s'est adaptée à une terre cultivée à 980 mètres d'altitude. Voilà.
Donc là, on est dans un des coins du terrain qui est occupé pour la lutte des sucs. Et on est au milieu d'un chantier. Et est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous veut bien nous décrire un peu à quoi elle ressemble pour l'instant et à quoi elle va ressembler cette cabane quand elle sera un peu plus avancée? Pour des gens qui sont à la radio et qui du coup ne voient pas.
Là, tout de suite, la cabane, c'est quatre poteaux pour faire des... avec une structure donc tout en bois. Il y a donc des portants, enfin tout ce qui fait une charpente traditionnelle de base. Il y a les premières planches qui serviront à faire le soubassement du plancher, sur lesquelles on va ensuite poser les planches qu'on est là toutes les deux en train de mesurer, qu'on va tailler, etc. Et il y a des plaques de tôle qui sont en train d'être posées pour faire le toit. Ce qui signifie que d'ici ce soir, si tout va bien, donc d'ici quelques heures, on aura le plancher et le toit. Et je pense que les murs ne sont pas encore faits et que ça devrait être continué demain.
Et c'est quoi l'idée alors de faire une cabane sur ce terrain?
Moi je pense que c'est pour... En fait il manque un peu d'espace commun dans cette lutte et ça manquait quelque chose pour prolonger ou pour développer ou pour renforcer le collectif. Et du coup il y a un peu d'ordre symbolique comme ça de construire quelque chose sur un lieu dont on va perdre l'usage et en même temps un truc un peu pratique de pouvoir se retrouver là parce que depuis janvier qu'il y a eu un début de travaux, il y a plein de balades avec des thèmes quoi, genre balade naturaliste, balade géologie, il y a des explorations un peu de ce qu'ils font comme chantier, comme déforestation, comme tout, comme ils parcellent un peu, ils zonent tout le futur tracé. Et pour tous ces départs-là, tous ces moments-là, en fait, ça semblait cool d'avoir un lieu de rendez-vous, quoi. Et du coup, tant qu'à faire, autant le faire sur le tracé. Et voilà. Et bon, ce qui change un peu la donne, c'est que on le faisait avec le risque très 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 fort que ce soit détruit après le week-end. Et que finalement, il s'avère que par un choix complètement hasardeux, on est tombé sur un tout petit bout de parcelle privée. Et que ça, bon, ça va permettre peut-être à cette cabane de rester debout, vraiment à l'orée du tracé, quoi. C'est plutôt pas mal. Ça fait, y a aussi des idées que ça fait une vigie, une petite cabane vigie, un peu comme on voit tout le paysage du tracé depuis cette cabane. Il y a ce côté-là dont on peut observer d'ici l'avancée des travaux. Voilà.
dodo, mais la justice y a d'autres que va se barre. Tout le pauvre petit saludo, et c'est toi, mais tu t'embrasses. La laïero, desvenguido, adieu Paolo, carnavas. Adieu Paolo.
On est avec Claude du collectif de la lutte des sucs.
Bonjour.
Est-ce que la question que je voulais te poser, c'était un peu, est-ce que tu peux nous expliquer l'implication des paysans et des agriculteurs un peu du coin là dans cette lutte ici contre la RN 88 ? Et déjà, on va commencer par ça.
Alors, il faut savoir qu'il y a 29 fermes qui sont impactées par le projet. Mais en fait, sur ces 29 fermes, on va dire qu'il n'y a que 10 fermes qui sont vraiment impactées, parce que les 19 autres restantes, en fait, elles ont du terrain sur le tracé, mais le corps de ferme est plutôt quand même loin du tracé. Et sur les 10 fermes restantes, en fait, il y en a 5 qui marchent bien dans la combine du projet, parce que clairement, en fait, les choses, elles ont été orchestrées avec eux, et 5 en fait qui se voient en fait leur structure de ferme complètement démolie par le tracé, quoi. Alors du coup, c'est avec on va dire ces cinq fermes, bah, ça représente un peu plus d'acteurs quand même, mais c'est avec ces 5 fermes qu'on va essayer de mener une espèce de lutte foncière, quoi.
Et quand on dit lutte foncière, du coup, qu'est-ce que ça recoupe ? Est-ce que c'est garder à tout prix les terres ? Est-ce que c'est se battre pour pas se faire exproprier ? Ou est-ce que c'est déjà trop tard pour ça ?
Alors l'expropriation, bon, c'est fini, hein. c'est la DUP, la déclaration d'utilité publique, elle est caduque depuis 2009. Et donc du coup, maintenant en fait, tous les terrains qui sont achetés, ils sont achetés à l'amiable.
Donc c'est l'État qui achète auprès des propriétaires fonciers, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'État en fait veut aller vite un peu en besogne, c'est-à-dire que pour accélérer la procédure d'achat de terres. Alors en fait, il faut comprendre quand même dans l'histoire qu'il manque énormément de terres pour le projet. En fait, principalement, il manque des terres pour l'emprise de la route, parce que légèrement l'emprise sera déplacée. Il manque des terres pour le raccordement de réseaux, notamment eau, gaz. Il manque des terres pour les raccordements routiers de villages. Il manque des terres pour les bassins de rétention d'eau, où en fait la législation a changé depuis 2007. Donc les 5 agriculteurs restants, eh ben en fait on va essayer de leur faire une lutte foncière. Enfin, on va les faire coopérer entre eux pour mener une lutte foncière, une lutte collective, pour dénoncer en fait au niveau juridique le fait que l'État s'affranchit des droits des fermiers. Tous ces droits en fait qui lient les propriétaires aux fermiers, les fermiers aux propriétaires plutôt.
Qu'est-ce que ça veut dire faire une lutte foncière ?
Donc voilà, ben une lutte foncière en fait, donc c'est dénoncer du coup le fait que l'État s'affranchisse des lois, et c'est aussi bien sûr en fait, il y a plein de points, donc je ne vais pas les détailler, hein, mais c'est la réunion des propriétaires fonciers qui ne veulent pas vendre, c'est pour nous aussi clairement l'achat d'une parcelle en indivision, donc en indivision et si possible en indivision très très compliquée. Donc ça en fait, il faudra qu'on trouve quand même un notaire très très engagé, on va dire. Et puis bien sûr après, c'est tout ce qui est en fait les aller en justice en droit rural et en fait dénoncer le fait que l'État s'affranchisse des droits du ferme, des obligations qu'il y a quand il y a une vente de terrain agricole. Notamment, c'est le droit de préemption avec les SAFER, le droit au bail, le droit du fermage. Et voilà.
Donc ce serait un peu faire annuler l'appropriation des terres là par l'État, c'est ça ?
Voilà, c'est faire casser les ventes qui ont eu lieu sur la deuxième emprise.
Et donc là, on est avec le collectif de la lutte des sucs qui porte un peu cette lutte ici. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de quand, comment le collectif s'est constitué et voilà, et quelles sont un peu les forces en présence là sur cette lutte ?
Ouais. En fait, le collectif, il s'est constitué à la suite de l'appel du 17 juin contre la réintoxication du monde, qui est un appel qui a émergé après le premier confinement pendant le Covid, qui a émané de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, en fait, il n'y avait pas de collectif avant. Et en fait, les gens se sont rencontrés à ce moment-là. En fait, il y a eu une proposition d'action sur le Pertuis de faire une petite mobilisation collective. Et en fait, ben, on a commencé à se rencontrer les uns les autres, venant de différents endroits, villages alentours. Et à la suite de ça, en fait, on a notamment rencontré des paysans qui sont aujourd'hui un peu des acteurs clés de la lutte, qui sont impactés par le tracé actuel. Leur ferme va être coupée en deux, ils vont perdre leurs sources, ils vont être obligés de payer 3000 euros d'eau alors que c'était gratuit avant grâce à la source. Et on s'est donné rendez-vous à l'été dans la ferme de ces paysans et qui sont en chèvre et en vache. Et il y a eu un premier rassemblement public qui a en fait acté un peu la création du collectif. Et après, il y a eu plusieurs épisodes comme ça d'action. Il y a eu le 17 décembre, c'était un second appel à agir contre la réintoxication du monde. Et là, on a fait un blocage de la RN 88 suite à un petit rassemblement. Il y avait 300 personnes et... La dernière action en date, c'était il y a quelques semaines. En fait, on a fait une transhumance de brebis. C'est un paysan qui a mobilisé son troupeau jusque sur les terres du tracé. Et une fois là, en fait, on a semé des céréales et des plantes protégées en un grand semis collectif. On avait récolté presque 1 million de graines. Et on a semé tous ensemble sur ces parcelles qui venaient juste d'être fraîchement travaillées. Donc c'est des parcelles de l'État qui sont déjà vendues ou expropriées.
Et qui sont sur le tracé de la route, c'est ça ?
Qui sont pile sur le tracé de la route. Et du coup, on a semé notamment du seigle, de l'avoine, des choses comme ça. Et aussi des plantes protégées sur le tracé qui sont par exemple la nielle des blés, qui est une plante messicole. C'est des plantes qui poussent dans les champs des céréales d'hiver, quoi. Et c'est une plante assez intéressante qui accompagne en fait les agriculteurs depuis leur migration du Moyen-Orient jusqu'à l'Europe depuis 10 000 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un geste de continuer à propager ces plantes-là, de favoriser la diversité. Et ensuite, on a fait repasser le troupeau de brebis sur les terres semées pour pouvoir qu'elles enfoncent avec leurs petits sabots les graines, les remettre en contact avec la terre pour que ça puisse germer. Et c'est une manière de faire une action qui porte les autres vivants qui sont attaqués dans cette lutte-là et une manière de dire quelle agriculture on défend avec une action un peu low-tech et sans pétrole grâce aux troupeaux de brebis.
Ok, et le dernier point aussi qu'on voulait aborder, comme nous on a déjà un peu suivi la campagne des soulèvements de la terre notamment à Rennes et qu'on suivra aussi ce qui va se passer à Paris, c'est comment cette lutte des sucs, ici, elle se rattache aussi à cette campagne des soulèvements de la Terre, de manière un peu plus générale. Parce que là, on était à l'épisode 3 des soulèvements de la Terre.
Mmh. Ouais, c'était un week-end de 3 jours, en collaboration avec les soulèvements de la Terre, qui a été soutenu par la Confédération Paysanne, Confédération Région et Confédération Nationale. En fait, nous, on a eu très vite envie de s'associer à cette campagne des soulèvements parce que ça concerne la question de l'artificialisation des terres, la réappropriation, la reprise de terres par le mouvement d'occupation. Et pour nous, c'était génial parce que ça faisait une espèce de champ d'écho possible tout à coup et qui permet d'éviter un isolement local et qui lui donne une ampleur parce que finalement, on fait réseau avec ces autres espaces, Saint-Colomban... Triangle de Gonesse, Rennes, etc. Et que du coup, ça lui donne une profondeur qu'elle n'aurait pas eu autrement à cette lutte, peut-être, et une visibilité médiatique nationale. Et on a été aussi, pour certains, au VET à Besançon, qu'à l'épisode d'avant. On sera sûrement à Saint-Colomban, donc on va continuer à contribuer à ce mouvement-là. Et puis, voilà.
Est-ce que tu as une idée un peu de ce que seront les perspectives là, de la suite de cette lutte et comment ça va continuer et on espère prendre de l'ampleur ?
Alors on a construit deux cabanes pendant le week-end, on a ouvert un potager. Ces cabanes-là elles vont servir peut-être moins d'occupation permanente, c'est plutôt de QG de la lutte, un peu sur le mode présidio là, dans la lutte Notave Lyon-Turin sur le TGV. C'est-à-dire en fait un lieu de rassemblement public connu de tous avec des assemblées de lutte, hebdomadaire ou toutes les deux semaines, on n'a pas encore fixé les choses. Donc il y a un prochain rendez-vous là dans les semaines qui viennent qui va être fixé avec barbecue et invitation aux habitants et aux sympathisants à venir continuer à organiser la lutte. Et voilà, en gros, la suite, c'est comment on continue à créer, à tisser du lien avec ceux, les habitants qui nous entourent, qui sont... il y a beaucoup de gens qui sont contre ce contournement. Il y en a beaucoup qui sont pour aussi, pour des raisons de nuisance, etc., qu'il faut prendre en considération. Donc, il y a cette dimension-là de continuer à fédérer autour du lieu. Maintenant qu'on a un lieu visible, on fait plus des petites réunions dans notre coin, et on peut continuer à fédérer. Et puis, je pense qu'il y a tout un travail d'enquête à faire, à aller rencontrer les gens un par un, les agriculteurs, reparler de leurs besoins pour faire remonter un peu dans le collectif tous ces points de vue et essayer de composer quelque chose de plus ancré localement, qui tient plus compte des gens qui habitent là. Ça, c'est un truc sur lequel on met beaucoup d'attention, et c'est pour ça qu'on a déjà créé pas mal de liens avec des paysans ici, mais il faut toujours aller plus loin, quoi. Et donc il y aura peut-être une dimension un peu enquête, porte à porte, aller voir, il y a un petit groupe qui s'est constitué. Il y a l'idée de réfléchir au foncier. On aurait envie de sécuriser peut-être un endroit. Là, on a déjà une cabane sur une parcelle privée. Mais peut-être l'idée de racheter un autre espace, essayer de reproduire des tactiques un peu genre rachat de parcelles à très 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 nombreux pour compliquer à mort le travail de démantèlement du droit et de l'administration, quoi. Donc ça, on est en train de réfléchir à ces éléments-là. Et après, tout est ouvert, et pour l'instant, c'est super bien parti.
Merci beaucoup. On vous souhaite que ça prenne de l'ampleur et que ça marche bien.
Retour en studio, nous ne sommes donc plus en Haute-Loire, mais à Paris, et pour avoir un petit retour sur ce qui s'est passé. Alors, précisément, donc le morceau qu'on a entendu avant, c'est un morceau de Peace Kitty. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fait un petit retour sur ce qui s'est passé en Haute-Loire. Alors, normalement, on a Abel qui est censé être en ligne.
Oui. Bonsoir.
Bonsoir. Et pour nous parler un peu, donc c'était un reportage qu'on a fait il y a 10 jours et depuis la situation a un peu évolué parce que donc on a parlé des cabanes et du fait qu'elles étaient normalement hors propriété de la réserve foncière de l'emprise et que ça devait les protéger et ça n'a pas été si simple en fait.
Oui, alors en fait ce qui s'est passé c'est que pendant le week-end il y a un paysan qui était propriétaire des terres sur lesquelles on occupait, qui nous a dit qu'il avait signé une promesse de vente sur une bande de terre qui était donc pas encore vendue à l'État. Et c'était la bande de terre sur laquelle avaient été construites les cabanes. Et donc voilà, on a un peu tout fait, appeler une avocate, fait venir une géomètre, pour que cette bande elle soit un peu sécurisée et que les cabanes ne soient pas détruites. Le propriétaire du terrain, il a écrit une lettre pour certifier ça. Et en fait, à 21h05, au moment du couvre-feu, il y a des pelleteuses qui sont arrivées et qui ont tout détruit. Donc le champ était complètement ravagé. Le lendemain, c'était assez émouvant de voir le paysan et son père qui avaient cultivé ces terres-là. Enfin, il était en vache sur ces terres-là pendant des années. Ils étaient vraiment choqués parce que le champ était complètement ravagé. C'était assez méprisant comme geste que de ne même pas les prévenir et de venir pendant la nuit faire ça. Et en fait, on s'est rendu compte après que la promesse de vente qu'ils avaient signée, elle est très rare. Et il y a une toute petite mention qui stipule que l'État a mainmise directe sur le terrain. Donc voilà, l'avocat qui nous avait conseillé était un peu étonné parce qu'en fait, c'est très rare c'est les promesses de vente avec cette condition-là. Donc il n'y a que l'État qui peut se retirer. Et voilà. Et depuis, c'est une commission qui existait déjà avant, mais elle s'est renforcée pendant le week-end des soulèvements de la terre. Une commission foncier dans le collectif qui explore un peu toutes les pistes pour soit ne pas vendre du foncier sur le tracé ou soit même regagner du foncier à travers des sortes de failles administratives, des papiers qui n'auraient pas été faits exactement comme il faut. Et sur ces promesses de vente, il y a une piste. On peut pas beaucoup en parler dès maintenant, mais voilà, il y a une piste pour que ces promesses de vente elles puissent être annulées.
Mais en fait, c'était un peu à l'image de tout le week-end, à savoir qu'il y a eu comme un jeu comme ça avec la légalité entre l'État qui a des lois qui sont très restrictives, mais en fait, malgré tout, il laisse des accès de liberté au sein de cette loi, aussi minime soit-il, et du coup, il joue avec. Et donc là, ça, par exemple, ça a été tout le truc sur le champ de ce qui pouvait être fait, de ce qui pouvait pas être fait, de laisser les gens venir, mais à 21h, il y avait le couvre-feu. Et en fait, c'est une perpétuation comme ça, d'une sorte d'intervalle légal en fait très que l'État a clairement la main mais qu'on peut jouer avec dans une certaine limite que lui reprend la main s'il faut, enfin c'est assez ça fait une lutte comme ça un peu dans un intervalle qui nous laisse quoi. Et la question c'est quelle place on a et quelle possibilité on a de jouer avec ces marges là quoi.
Oui, bien sûr, et en même temps on voit que si on jouait que sur le terrain de la légalité, de la contestation à cet endroit-là, au début, quand on a commencé la lutte, il y avait FNE, donc France Nature Environnement, qui a été très impliqué, qui a monté des gros dossiers pour mentionner toutes les illégalités qui étaient à la fois, par exemple, il y a un arrêté préfectoral sur les travaux, donc avec des mesures environnementales. Et il a été contesté à la fois le respect de cet arrêté-là en tant que tel et l'arrêté lui-même en tant qu'il n'est même pas légal quoi. C'est-à-dire que par exemple les terrains de compensation sont pas encore acquis et les travaux commencent déjà. Et là récemment on vient d'apprendre que les travaux ont commencé, il y a eu des travaux de défrichement, etc. Les mesures de l'arrêté n'étaient pas respectées. Donc c'était en plein hiver, les températures étaient hyper froides, donc c'était des moments d'hibernation. Donc normalement les travaux peuvent pas se passer à ce moment-là. Et en fait, on vient d'apprendre qu'il n'y a même pas de loi qui stipule que ce genre d'arrêté doit être respecté. Donc on nous dit, l'autorité environnementale a dit, on essaye de porter cette affaire-là, mais le problème, c'est que on ne trouve pas d'article de loi qui mentionne qu'un arrêté préfectoral doit vraiment être respecté. Donc il aurait fallu trouver des animaux morts ou je sais pas quoi. On trouve ça important. Il y a des gens dans le collectif qui sont assez doués là-dedans. D'aller jouer sur le terrain juridique à la fois au niveau environnemental mais aussi au niveau foncier agricole, ce qui est une piste pour l'instant qu'on n'a pas encore assez explorée et que là qui se met vraiment en place de manière de plus en plus concrète avec des vraies pistes sérieuses et assez assez intéressante en termes d'hectares récupérables, on va dire. Le terrain juridique, il est vraiment pas suffisant.
C'est là qu'on sent qu'on joue clairement pas à armes égales avec l'État, qui écrit et qui fait appliquer les lois. Alors, du coup, là, les cabanes ont donc été détruites. Elles devaient servir normalement de point de ralliement un peu de la lutte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective pour vous, à la fois dans la dynamique de contestation et dans la dynamique du collectif?
Alors, le week-end d'après, on s'est re-rassemblés pour un pique-nique au même endroit, en fait, où ils avaient encore laissé le jardin qui avait été fait pendant le week-end. Et on a fait la première assemblée de lutte, parce qu'avant, c'était plutôt un fonctionnement en coordination, donc un petit nombre de personnes très impliquées qui décide et qui met en place des actions, la communication, la bataille juridique, etc. Et là, du coup, on a décidé de mettre en place des assemblées à beaucoup plus nombreux et tout un tas de commissions techniques, un peu plus précises, donc commission foncier, commission action, commission naturaliste en lutte. Commission relation avec les habitants des villages, etc.
Ce qui veut dire que donc l'abattage des cabanes n'a pas mis fin à la dynamique de lutte.
Non, plutôt même elle a choqué, interpellé des gens du coin qui n'ont pas trop compris ce qui s'était passé. Et du coup, ça a plutôt donné lieu à, enfin, le week-end en général a plutôt donné lieu à un élargissement et à plein de gens qui ont envie de s'impliquer plus, de pas juste attendre que la prochaine action soit annoncée. Et le prochain moment un peu fort, ça va être les 13 et 14 juillet, où il va y avoir une sorte de marche transhumance sur tout le tracé. On va descendre le tracé, en fait, il y aura une petite soirée au bout du tracé avec un méchoui, de la musique, tout ça, et on remontera le tracé le lendemain. Et l'idée, c'est de donner à voir, en fait, d'essayer d'imaginer ensemble l'ampleur des travaux, de passer auprès du Mont Chirou, lac Insuc, et de dire là, il y aura un viaduc de 300 mètres en 2x2 voies, donc ça ira de là à là-bas, plus des apports un peu naturalistes, géologiques, botaniques, etc.
Très bien.
Et
donc ça, c'est une invitation pour le 13 et 14 juillet.
Voilà.
Super. On va relayer. Donc 13 et 14 juillet, donc c'est alors le lieu exact, redis-nous.
Alors du coup, ça partira du village du Pertuis sûrement, ou du Vernet, un petit hameau juste au-dessus. Et on descendra le tracé, et voilà, faut regarder les cartes publiées du tracé de la future RN88, ce sera du haut jusqu'en bas, et puis le lendemain, on partira plutôt de Montferrat et on remontera jusqu'au Pertuis.
Très bien, donc c'est près du Pertuis, c'est au nord du Puy-en-Velay. Eh bien voilà, c'est noté. Alors pour une fois, on peut vous annoncer un peu ce qu'on va faire dans 15 jours, c'est qu'on parlera donc du livre « Nous ne sommes pas seuls » de Antoine Chopot et Léna Ballot. Probablement qu'on fera l'émission, c'est déjà enregistré, et du coup on pourra faire l'émission dans 15 jours. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. On remercie bien donc Abel qui nous a fait le retour, ainsi que l'ensemble du collectif qui nous a accueillis pendant tout le week-end de reportage. C'était vraiment super, on était hyper contents de faire du reportage, ça fait très longtemps. Et voilà, donc on remercie vraiment bien tout le monde pour l'organisation, c'était super. Et on vous laisse avec Musique Antille. Salut.